Bienvenue dans Nos aînés connectés, une série d'émissions radiophoniques exclusives qui vise à démocratiser la littératie numérique à destination des aînés et se penche sur les dangers liés à la cybercriminalité. Un programme rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Nathalie Salmeron au micro pour un nouvel épisode de notre série d'émissions Nos aînés connectés. Un projet d'émission qui, je vous le rappelle, est d'ailleurs financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Alors dans Nos aînés connectés, comme vous le savez déjà, vous avez pu déjà le découvrir au travers de nos premiers épisodes déjà diffusés sur les ondes de Choc FM 105.1, mais aussi présents en ligne sur notre site chocfm.ca et puis récemment, un peu plus récemment, sur toutes les plateformes de streaming. En effet, vous pouvez retrouver les épisodes de Nos aînés connectés sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, TuneIn ou encore Amazon Podcast et iHeartRadio. Mais donc, comme je vous le disais dans les épisodes précédents, vous avez pu vous en rendre compte, nous essayons grâce à cette série Nos aînés connectés de mettre en lumière toutes les arnaques liées à la cybercriminalité et ainsi à sensibiliser nos auditeurs face aux mauvais traitements envers les aînés en ligne, en particulier en matière d'exploitation financière et émotionnelle. Et puis nous voulons également, à travers ce projet, favoriser l'inclusion sociale et réduire l'isolement de ces populations particulièrement touchées par les cybercriminalités en tout genre, et ce, d'autant plus, depuis la pandémie de Covid-19. Alors dans ce nouvel épisode de Nos aînés connectés, aujourd'hui nous allons aborder ensemble le thème d'une fraude qui a tendance à se répandre de plus en plus, celle en lien avec les fausses cartes cadeaux que l'on peut ensuite utiliser comme mode de paiement en magasin ou en ligne. En effet, voici une nouvelle arnaque qui devient donc de plus en plus monnaie courante ici au Canada, mais également un peu partout aux quatre coins de la planète. Le système des fraudeurs est toutefois déjà bien rodé. Ces derniers vous envoient des emails pour vous demander un service ou de l'aide, bref, cette personne a besoin de vous. Le fraudeur, quant à lui, va donc se faire passer pour une personne dont vous êtes proche et va surtout trouver un prétexte pour vous expliquer que ses correspondances doivent rester par email et qu'il n'a pas besoin que vous lui passiez un coup de fil ou alors qu'il n'a pas accès actuellement à un téléphone. Des emails qui ont donc l'air totalement légitimes avec le nom d'une personne que vous connaissez bien, toutefois, à y regarder de plus près, il y a quand même toujours une petite différence, un tiré en plus, un chiffre, une lettre décalée. Bref, restez bien aux aguets lorsque vous recevez un email de la part d'une personne que vous connaissez bien et qui a toutefois une coquille présente dans son adresse email. Par coquille, on entend donc une différence par rapport à l'adresse classique que vous connaissez bien. Mais sachez les auditeurs de Choc FM 105.1 qu'il y a encore plus grave. Car des fois, cet email envoyé, la personne va ensuite vous demander de l'aide en achetant une ou plusieurs cartes cadeaux pour elle. Et ensuite, vous allez devoir lui transmettre les numéros de cette carte cadeau et surtout le code PIN de cette fameuse carte afin que la personne de l'autre côté soit en mesure de pouvoir encaisser l'argent provenant de cette carte cadeau. Alors si de votre côté vous pensez être un ami en or et être aux petits soins pour vos proches en essayant de leur rendre service au maximum, vous êtes en fait en réalité en train de tomber dans une véritable arnaque. Le fraudeur quant à lui a réussi par le biais de cet email à vous toucher, à toucher votre cœur et donc à vous faire entrer dans son arnaque. Et selon l'aide que vous allez recevoir autour de vous ou pas, l'escroc pourrait donc continuer à tirer sur la corde et ainsi vous arnaquer de nouveau sans que vous vous en rendiez compte. Alors dans ce nouvel épisode de Nos aînés connectés, vous allez entendre le témoignage de Mireille, une habitante du centre accueil Héritage, une résidence pour aînés ici à Toronto. Cette dernière a d'ailleurs eu le courage de nous raconter son histoire, car il est vrai que de nombreuses personnes victimes d'arnaques n'osent pas forcément en parler, par peur de représailles ou tout simplement parce qu'ils ressentent une certaine honte d'être tombés dans le panneau. Mireille a donc bien voulu partager son histoire et vous allez voir que grâce à son esprit vif et surtout au fait qu'elle a reçu de l'aide de la part d'une caissière, elle a pu éviter de justesse la catastrophe alors qu'elle avait déjà les fameuses cartes cadeaux dans les mains prêtes à être achetées. Et puis juste après ce témoignage, vous allez également entendre les bons conseils de Bénédicte Chopflin. Bénédicte Chopflin qui n'est autre que la directrice générale du réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés et qui par son expérience va donc vous donner de nombreuses clés pour pouvoir à votre tour détecter les arnaques et pouvoir être sûr de surfer sur la toile sans tomber dans le piège de cybercriminels. Et puis pour finir, vous aurez également quelques conseils de la rédaction de Choc FM 105.1 qui vous permettront d'avoir un récapitulatif de toutes ces arnaques auxquelles vous pouvez vous confronter lorsqu'il s'agit des cartes cadeaux et des emails frauduleux qu'on peut recevoir. Alors, bon épisode à toutes et à tous les auditeurs de Choc FM 105.1 et j'espère surtout que cet épisode va vous offrir l'occasion de vous sentir un peu plus rassuré face à ces situations parfois compliquées à gérer lorsque l'on n'est pas suffisamment armé et puis surtout que vous, les auditeurs de Choc FM 105.1, vous allez pouvoir tous devenir de réels experts 2.0.
Nos innés connectés, témoignages.
Et je suis avec Mireille qui a une histoire à partager avec nous aujourd'hui. Alors ça, encore une autre fraude qu'on connaisse un petit peu maintenant, la fraude aux cartes cadeaux. Alors Mireille va nous raconter son histoire, mais pour vous donner une idée, c'était comme d'habitude un email classique qui arrive de la part de quelqu'un qu'on connaît. Pour le coup, c'était une amie de Mireille qui lui explique qu'elle allait se marier et qu'elle avait besoin de cartes cadeaux. Mais malheureusement, c'était une fraude. Mais Mireille a eu la puce à l'oreille et grâce à l'aide aussi de la caissière du magasin où elle a acheté les fameuses cartes cadeaux, elle a pu esquiver cette fraude. Mais Mireille, explique-nous un petit peu en détail ce qui s'est passé.
Alors, j'ai une amie qui habite au nord, qui n'est pas à Toronto et qui se marie. Et justement, elle m'envoie un courriel pour me dire « Je ne peux pas parler au téléphone, s'il te plaît, peux-tu me communiquer ?» J'ai communiqué avec elle, je lui dis « Oui, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ?» Elle me dit, tout ça c'était par courriel. Et son nom de courriel était exact, sauf la fin.
Dans l'adresse email, c'est ça, l'adresse était similaire, mais juste la fin était changée.
Justement, surtout que c'est pas son nom, elle a un nom spécial pour le courriel, et c'était le nom spécial. Alors il n'était pas question que ça soit fraude. Alors elle me dit, nous ne trouvons pas des cartes de crédit Apple chez moi, et je voudrais... Étant donné que, comme tu sais, et je savais qu'elle devait se marier, je ne sais pas comment ils peuvent connaître tous les détails. Et comme tu sais, j'ai besoin d'un peu de cash, différentes cash. Peux-tu m'aider? Je dis oui, avec plaisir, je vais essayer. Et j'ai pas trouvé ce qu'elle voulait. J'ai quand même écrit et elle m'a répondu. Je lui dis, je n'ai pas trouvé ce que tu voulais ici dans le quartier, mais je vais aller au magasin Apple lui-même et je vais commander les cartes. Alors, à ce moment-là, j'ai été chez Shoppers, Drug Mart, et j'ai trouvé les cartes, bien sûr, de Apple. J'ai pris tout ce qu'elle voulait. Elle voulait en diminution de 100. Chacune. Alors elle me dit, dès que tu as cette carte là, s'il te plaît, pour gagner du temps, gratte et donne-moi le numéro du PIN, comme ça parce que tu vas pas me les envoyer, je n'ai plus le temps. À ce moment là moi je peux retirer l'argent de chez moi et tu m'aurais aidé. Alors j'ai acheté les cartes. Elle voulait 5 cartes, et chaque carte de $100.
Donc en tout elle voulait 5 cartes de $100, donc ça fait déjà $500.
Non, 5 cartes, 100 de chaque carte, ça veut dire 500 en tout. Okay. Moi, ça, c'était pas grand. Alors, quand c'est pas un grand montant, on s'imagine que, oui, elle a besoin, elle veut du cash, je peux l'aider. Et je prends les cartes et je vais chez la caissière. Alors, elle me dit, pourquoi tu as toutes ces cartes-là? Je lui dis, j'ai une amie qui se marie, elle a besoin du cash. Et elle m'a demandé, c'est ce que je vais faire, c'est juste ce que je dois faire, je dois seulement leur donner le PIN. Dès qu'elle a entendu ça, elle a retiré les cartes de ma main. Elle a dit non, je ne les vends pas. Alors je dis mais je suis assez mal, je croyais pas, je croyais qu'il y avait quelque chose. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais acheter, j'ai ma carte de crédit, je peux acheter. Elle me dit non, c'est pas la question, it's fraud. Je dis qu'est-ce que vous? Non, c'est mon amie. Elle m'a envoyé le courriel. Elle me dit non, c'est fraud. Et je les ai pas, mais je la croyais pas encore. Et elle ne les a pas vendus. Grâce à elle, je suis rentrée à la maison, j'ai ouvert le courriel, j'ai regardé bien son le nom, j'ai remarqué que le petit numéro à la fin, .ca ou .com, il y avait quelque chose qui n'était pas son nom. Et j'ai réalisé que c'était fraude. Mais si c'est pas la question, je n'aurais jamais, jamais pensé. Si j'avais acheté ça d'ailleurs, d'un autre magasin, je n'aurais jamais pensé que c'est. J'aurais vraiment effectivement gratté parce que c'est une amie qui se marie et qui a besoin de faire des petits cadeaux, des cash, des pourboires ou bien je ne sais quoi.
Mais en fait, c'est même plus que ça parce que c'est grâce, à mon avis, au fait que vous ayez expliqué et demander comment ça fonctionne, parce que j'achète ces cartes et est-ce que je dois gratter. Donc demander la marche à suivre, du coup la caissière elle a pu savoir, parce que si vous expliquiez pas votre histoire, elle aurait juste vendu les cartes et elle aurait pris l'argent, et puis après elle, ce qui se passe après, malheureusement c'est pas son problème.
Oui, justement, elle m'a dit, non, surtout, maintenant, ils essayent des choses. Non. Et c'est à cause d'elle que je n'ai pas perdu l'argent. C'est vraiment à cause d'elle, parce que c'était fini. Je les avais achetés, j'étais en train de le payer.
Et est-ce que de son côté, votre amie, elle continue à vous envoyer des emails en vous demandant un petit peu pressément, t'en es où avec les cartes? Est-ce que t'as pu récupérer? Tu m'as dit que dans le premier magasin, t'avais pas trouvé.
C'est elle qui a passé pendant 3 jours, parce que je disais que je n'arrive pas à sortir de la maison. Mon mari était irrité. Alors, je lui ai dit, demande un jour que je sors. Et ça, c'était un courriel qui allait venir plein de paperasse. Et j'ai fait une copie plus tard quand j'ai pu la contacter, qu'après son mariage, elle a dit oui, elle a eu d'autres amis qui ont eu le même problème, ça a été ailleurs aussi.
Et est-ce que de son côté à elle, elle a eu des soucis, parce que peut-être que c'est elle qui a été infectée à la base, quelqu'un qui a pris ces informations à elle et qui après se sont fait passer pour elle justement pour envoyer des emails, parce que ces gens-là avaient accès à son répertoire en fait.
Justement, elle a tout et apparemment que et c'était pas un bon moment pour elle, parce que ses amis aussi l'ont contactée pour dire, et elle a tout changé. Elle a pris ses précautions complètement. Elle a tout changé.
Et du coup maintenant, Mireille, est-ce que quand on vous demande d'acheter des cartes cadeaux, est-ce que vous avez peur ou est-ce que maintenant vous êtes rassurée?
Je ne vais pas les acheter. Je n'ai pas ces demandes, c'est rare. C'est pour ça que j'ai voulu l'aider. C'est rare, mais non, c'est des choses que je ne sais pas, parce que moi, ça m'étonne que ça m'arrive, parce que moi, je suis une personne qui vient en réaliste, qui réalise qu'est-ce qui se passe dans la vie. Et puis, ça m'arrive à moi.
Comme quoi, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Est-ce que vous auriez quelques petits conseils justement pour être sûr de ne pas se faire arnaquer, bien regarder les adresses e-mail? Est-ce qu'il y a autre chose aussi?
Il y a maintenant beaucoup de choses que je ne faisais pas avant. Le courriel qui arrive, n'importe quoi, que ce soit un courriel de Costco même, une fois c'était, ou bien un courriel des amis, je n'ouvre pas. Je vérifie et je n'ouvre pas. Et je fais beaucoup attention. J'ai appris ma leçon. Ça ne m'a pas coûté, mais ça m'a coûté le stress et l'énervement. Pas le finance, mais...
Merci beaucoup, Mireille, pour ce témoignage.
Merci, Nathalie.
Nos aînés connectés, le point de vue de l'expert.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Bénédicte Chopflin, et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de chaque FM 105.1. En effet, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir la directrice générale du réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés. Comment tu vas, Bénédicte, aujourd'hui?
Ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invitée à parler aujourd'hui.
Eh ben, écoute, moi, je suis très contente, justement, de t'avoir avec nous, parce qu'on va pouvoir parler de sujets d'actualité. En effet, celui des arnaques que l'on retrouve un peu partout sur Internet, malheureusement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Bénédicte, est-ce que tu pourrais nous rappeler qu'est-ce que c'est que le réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés et quelle est sa vocation première?
Oui, absolument. Donc, le réseau canadien, qu'on connaît plus souvent par son acronyme RCPMTA ou CNPEA, en anglais, c'est le seul réseau pan-canadien qui se penche sur la question de la maltraitance des aînés et même aussi, je vais dire, de l'âgisme. Et donc, nous, notre mission, c'est vraiment d'éduquer le public, d'améliorer la sensibilisation au sujet de la question. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment ça se manifeste? Comment réagir? Où trouver de l'aide selon où vous vous trouvez dans le pays? Ça implique aussi, bien entendu, de proposer des ressources bilingues, parce que c'est pas facile non plus quand on est francophone, des fois, de trouver les services nécessaires pour quand on en a besoin. Et puis, on a aussi créé donc notre site cnpea.ca. C'est un peu une librairie gratuite de ressources qui rassemble l'essentiel de ce qu'on sait sur la maltraitance, autant au niveau études, ressources, documents faciles pour à distribuer, services de soutien, tout ça en un endroit. Parce que sinon, ça peut être très difficile pour une personne qui est un peu en panique ou en besoin d'informations de trouver ça. Donc, on a créé cette espèce de hub pour permettre aux gens de se connecter les uns aux autres et de trouver ce dont ils ont besoin rapidement.
Alors, c'est vrai que depuis de nombreuses années maintenant, on voit de plus en plus d'arnaques en tout genre sur Internet, que ce soit des faux sites Internet qui arnaquent les gens en prenant leurs informations bancaires ou leurs données personnelles, que ce soit en lien avec les intelligences artificielles ou encore les fraudes autour des crypto-monnaies, par exemple, pour citer que quelques exemples. Le résultat, il est flagrant, de plus en plus de Canadiens se font avoir. Et en regardant de plus près, on se rend compte que bien souvent, c'est souvent les personnes âgées qui sont victimes de ces arnaqueurs 2.0. Du coup, Bénédicte, je me demandais à partir de quand vous avez pu remarquer des recrudescences de ces arnaques envers les personnes âgées et qu'est-ce qu'elles te disent quand elles viennent vers toi ou qu'elles viennent vers vous en général au réseau de manière générale?
Alors, ces arnaques, elles ont toujours existé. D'une façon ou d'une autre, c'est quelque chose qui a toujours été là. Simplement, avant, c'était peut-être un peu plus du porte-à-porte. C'était l'ami d'un ami. C'était quelqu'un que vous aviez rencontré à une fête dans la communauté ou peut-être dans votre lieu de pratique religieuse qui vous faisait une offre exceptionnelle qu'on pouvait pas refuser. Simplement, donc, maintenant...
représentant Tupperware ou voilà. Quelle marque de truc.
Ou le gars qui essaie de vous vendre un service pour venir couper vos arbres dans le jardin et puis après qui vous demande plus d'argent que prévu et qui fait des scènes. Enfin, il y avait toutes sortes de formats avant. Et puis maintenant, au fur et à mesure que la technologie a évolué, les arnaques ont évolué avec. Donc, téléphone, puis téléphone portable, Internet, toutes les plateformes utilisables, vous pouvez en trouver sous différentes formes. Qui ne change pas, au fond, c'est toujours il y a deux choses. C'est les sortes de mécanismes que les arnaqueurs utilisent pour faire tomber quelqu'un dans le panneau et puis pour les faire agir sans réfléchir. Donc, c'est toujours créer cette espèce de sens d'urgence. Pas le temps de réfléchir. Il faut le faire maintenant parce que soit vous allez avoir des problèmes si vous le faites pas tout de suite, soit vous allez rater une occasion géniale si vous le faites pas tout de suite. Comme ça, pour pousser les gens à passer à l'action avant d'avoir pris en compte tous les détails parce que sinon, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de louche. Et puis, l'autre chose qui ne change pas, bien entendu, c'est l'impact que ça a sur les effets que ça a sur les personnes qui en sont victimes. Parce que une fois l'arnaque complétée et la chose fait et l'argent perdu, très souvent difficile à récupérer, il y a tout un mélange de sentiments qui se manifestent. Donc, il y a la honte profonde de se dire qu'on a été bête et qu'on est tombé dans le panneau, qu'on aurait dû se méfier plus. Il y a généralement la panique ou le désespoir qui est associé à avoir perdu souvent une grosse somme d'argent, parce que pour de nombreuses personnes, ça peut être la différence entre avoir un appartement et pas avoir un appartement. Ça peut être ce qu'ils ont économisé toute leur vie pour avoir une retraite digne de ce nom. Ça peut être, on parle pas de petites sommes, c'est des grosses sommes, et c'est des grosses sommes qui souvent sont données par petits bouts, les uns derrière les autres, donc se rend pas compte forcément quand on est au cœur d'une arnaque de ce qui se passe, et à la fin, quand les personnes font le total, elles réalisent qu'elles n'ont plus d'économie, elles n'ont plus d'argent en banque, et donc ce mélange-là de détresse, de honte, de pas vouloir en parler, parce qu'en plus on se dit, maintenant les gens vont penser que j'ai plus ma tête, parce que l'agisme, quand même, c'est aussi fort dans cette affaire. Et donc, quand quelqu'un se présente et dit « je crois que j'ai été victime d'une arnaque et j'ai perdu tout mon argent », la peur est que la personne en face de vous se dise « ça y est, elles ont perdu la boule, elles ne peuvent plus vivre seules, il va falloir qu'elles aillent vivre avec nous ou dans un établissement ». Et donc, toutes ces peurs rattachées à la perte d'indépendance, à ce que les gens vont penser de vous, ça se cristallise comme ça dans un silence pesant où les personnes ne vont pas vouloir en parler. Elles ne vont rien dire et elles vont se retrouver à essayer de gérer les conséquences de tout ça toutes seules, ce qui est généralement pas la meilleure solution.
Mais justement, est-ce qu'il existe des plateformes où les gens ils peuvent raconter leurs histoires et peut-être également retrouver un certain soutien moral comme une sorte, entre guillemets, d'association de victimes ou quelque chose? Parce que comme tu le dis souvent, et nous on l'a constaté au fur et à mesure des témoignages qu'on a pu recevoir, ce qui revient et le dénominateur commun, c'est vraiment ça, cet effet de honte, d'avoir l'impression de s'être fait arnaquer, d'être trop naïf. Mais j'avoue, j'avais même pas pensé au fait qu'on puisse penser aussi que, vu que c'est une personne âgée, ça se trouve, elle perd la tête. Donc, du coup, ça se trouve, elle est plus en mesure de gérer ses finances toute seule ou quoi que ce soit. Oui. Du coup, je me demandais s'il existait quelque part un moyen pour ces personnes-là de pouvoir justement se retrouver entre elles et pouvoir discuter sans honte, sans se dire je vais me faire juger parce que elle aussi en face de moi elle s'est fait arnaquer, ça se trouve de plus que moi et au final je suis pas la seule victime au monde.
C'est ça. Je suis pas sûre qu'il y ait une plateforme officielle dédiée rien qu'à ça, mais je pense que très souvent ça se manifeste dans des groupes où vous êtes avec vos pairs, donc des personnes âgées qui par exemple sont actives socialement, qui vont dans un centre pour personnes aînées avec des activités quelle qu'elle soit. Parfois, il y a des activités particulièrement focalisées sur les arnaques et les fraudes, justement pour dire à leurs membres, voilà ce qui se passe à l'heure actuelle, gardez un œil ouvert. Et souvent, la présentation, si la personne reste à la fin de la présentation, certaines personnes qui sont venues écouter la formation ou la présentation vont venir vers elle et dire, bah oui, bah alors moi, il m'est arrivé ça. Et en fait, c'est pas forcément des lieux qui sont dédiés à ça, mais si vous laissez un peu de place, un peu d'espace, ça va être l'opportunité. C'est le climat s'y prête, exactement. Ils vont venir en parler. Il y a aussi, bien entendu, des gens qui forment leur propre groupe pour converser de ces choses-là sur Facebook, par exemple. Mais c'est vrai que si vous êtes tombé dans une arnaque qui était en ligne, qui était des fois par le biais de réseaux sociaux, vous êtes peut-être pas forcément très inspiré par l'idée de partager plus de détails avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas sur Internet, parce que vous savez que maintenant c'est dangereux. Bien entendu, il existe aussi des lignes de soutien. Donc, en Ontario, vous avez en anglais, c'est Senior Safety Line. Au Québec, il y a aussi une ligne maltraitance aînée que des individus peuvent appeler en tout temps pour parler. Il n'y a pas d'obligation de passer ensuite à l'action de rapporter, de signaler, vous fortement encourager, bien entendu, mais quelqu'un peut aussi simplement appeler pour parler et juste...
Comme une ligne d'écoute, comme quand exactement. On a un coup de déprime qu'on peut appeler la ligne pour le suicide ou la ligne quand on sent un peu seul. C'est des lignes où principalement ce qui est mis en avant, c'est l'écoute des gens. On leur demande l'écoute pas d'action particulière.
Exactement. Et ça peut faire énormément de bien juste de pouvoir dire à haute voix ce qui s'est passé et d'avoir quelqu'un en face de vous, ou même si c'est par téléphone, qui ne juge pas, qui va écouter jusqu'au bout et qui va vous dire que oui, vous n'êtes pas la seule personne et que non, ça n'est pas votre faute à vous. Ça paraît complètement bénin et naïf de dire ça, mais quand on est dans une situation d'arnaque, de fraude ou de maltraitance, quelle qu'elle soit, des fois, c'est les mots les plus importants qu'on a besoin d'entendre.
Mais d'ailleurs, est-ce qu'il existe un petit peu, tout à l'heure, tu parlais de ce truc où quand on reçoit un email ou que ce soit un appel ou que ce soit, bref, une fraude qui essaye d'entrer dans notre vie, entre guillemets,
oui.
Il y a toujours un dénominateur commun, un petit peu, tu parlais de l'urgence tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres façons de reconnaître, alors d'une façon assez générale forcément, là, puisqu'on ne va pas rentrer dans le détail de chaque arnaque, parce qu'il nous faudrait un an pour les détecter tous, parce qu'en plus, comme on disait aussi hors antenne, il y a le truc de, nous on parle des arnaques dont on a connaissance aujourd'hui, mais ça se trouve, il y en a certaines qui sont déjà en train d'être pratiquées, qu'on ne connaît pas, parce que les gens, comme on dit, par honte ou quoi que ce soit, ils n'osent pas encore en parler, et ça se trouve d'ici... Allez, un mois, six mois, un an, on va avoir écho de trucs, on se dit, waouh! En fait, ça faisait déjà longtemps qu'on était là-dedans. Mais du coup, voilà, si de manière générale, il y avait une façon de détecter un petit peu, de les reconnaître, ces arnaques sur Internet, ce serait par quoi et comment, Bénédicte?
Alors, une des premières choses que vous allez toujours entendre ou voir quand on parle de signes pour reconnaître les fraudes, c'est très souvent quand vous avez des textos, des courriels, des choses comme ça, il va y avoir des formulations un peu étranges ou des erreurs de grammaire dans la façon dont le texte est écrit. Alors, bien entendu, c'est pas... tout le monde n'est pas non plus pas grammaticalement parfait, donc c'est pas la seule chose, mais c'est un premier signe. Et puis aussi, par exemple, disons que vous recevez un email du service d'un service canadien du gouvernement. Bon, ça va peut-être dire dans la signature que c'est un service du gouvernement, mais si vous regardez l'adresse courriel elle-même et que vous posez votre souris juste au-dessus, le curseur juste au-dessus en flottant, l'adresse email elle-même ne va pas être une adresse genre arc.gc.ca. Ça va être quelque chose de complètement différent. Ça, c'est les petits signes techniques déjà qui vous disent que ça ne vient pas de la source qu'ils clament être. Après, au niveau plutôt de l'émotif, donc il y a le sens de l'urgence, donc toujours la pression. La pression qui peut être soit vite, ne ratez pas cette opportunité spéciale, ou la pression, comme on en a beaucoup reçu, de ces messages qui disent ici, l'Agence du revenu du Canada, vous nous devez de l'argent, nous allons venir vous arrêter à votre porte, nous allons vous déporter, des choses comme ça. Ou d'un coup, c'est plus des menaces qu'autre chose. Et donc là, c'est une chose à savoir et dont il faut se rappeler, c'est que surtout quand ce sont des messages où ils prétendent être soit du gouvernement, soit de votre banque ou de choses comme ça, votre gouvernement, votre banque, ils ne vont pas vous envoyer des messages de menaces. Et ils ne vont pas vous envoyer des messages avec un lien à cliquer dans lequel il faut rentrer vos informations. Généralement, dans ces cas-là, si vous êtes inscrit à avec, par exemple, l'Agence du revenu du Canada en ligne, ils vont vous dire, vous avez un message dans votre plateforme en ligne, allez vous connecter dans votre plateforme du gouvernement canadien. Jamais ça va être cliquez ici et puis suivez les instructions pour répondre aux informations. Donc, la pression, que ce soit positive ou négative, c'est un signe clair. Généralement aussi, quand on vous promet quelque chose qui a l'air trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est en effet trop beau pour être vrai et que c'est faux. Donc, la promesse d'une somme d'argent qui va vous tomber comme ça sous le nez parce que vous avez un cousin que vous connaissiez pas aux États-Unis qui est mort, généralement, c'est pas réel. Et ce qui est certain, c'est que si vous devez payer pour obtenir de l'argent en retour, c'est une arnaque. Donc, si l'argument est vous allez hériter de l'argent d'un cousin qui est mort aux États-Unis, mais pour pouvoir débloquer ça, il faut que vous payiez d'abord l'avocat 5 000 $ et ensuite vous allez toucher 5 millions de dollars, c'est une arnaque. Récemment, ça ne s'adressait pas à des personnes âgées, mais j'ai vu à Vancouver, c'était des étudiants qui étaient dans les métiers d'art ou dans les professions d'art qui avaient été contactés par Instagram, par quelqu'un qui leur disait qu'il voulait les commissionner pour faire des peintures, des pièces d'art, et en leur disant, je vais vous payer, je sais plus, disons $500. Et ensuite, qu'il leur envoyait un chèque pour $5 000 et leur disait, je pouvais pas, notre système ne nous permet pas de faire un chèque de moins de $5 000, donc c'est pas grave, encaissez ça, et puis renvoyez-nous $4 500 et vous gardez les 500. Sauf que la plupart des jeunes générations, en tout cas, déposent leur chèque avec leur téléphone, au lieu de la porter en banque, et parce que s'ils l'avaient apporté en banque, laquelle la personne à la banque aurait été capable de leur dire immédiatement ce chèque est faux. Quand vous le faites par le système sur votre téléphone, c'est pas la même chose. Donc, ils ont fait ce qu'ils pensaient avoir déposé leur argent et ensuite ils ont envoyé la différence à la personne qui a, bien entendu, gardé leur sous et eux n'ont jamais vu l'argent se manifester dans leur compte. Donc, ça arrive à tous les âges. Je voulais le dire parce que c'est important, mais c'est vrai que certaines arnaques sont particulièrement focalisées sur les personnes âgées et puis surtout prennent avantage du fait que certaines personnes aînées ne sont peut-être pas autant branchées que d'autres et sont moins à l'aise sur Internet. Et donc, si vous commencez à parler de quelque chose un peu obscur, les personnes vont se dire « bon, bah oui, c'est Internet, je comprends pas tout, mais ça m'a l'air normal ». Donc, la promesse d'argent qui va vous arriver si vous payez quelque chose en retour, c'est pas bon signe. Et puis, donc, généralement, la manipulation émotionnelle, hein, si vous voulez. Donc, que ce soit de vous faire peur, d'exploiter votre politesse, les gens qui n'osent pas dire non, parce qu'ils veulent rester polis, de faire semblant de devenir votre ami, faire semblant de devenir un potentiel intérêt romantique, une personne qui voudrait vous rencontrer, etc. Tout ça, ça peut vous mener à des arnaques plus grandes et généralement qui prennent leur temps. Ça va pas forcément être quelque chose qui est fait en 30 secondes. Dans certains cas, les arnaqueurs même bâtissent des relations et appellent les personnes régulièrement jusqu'à ce que ces personnes les considèrent comme des amis ou des confidentes.
Et du coup, je me demandais aussi, avec la pandémie et le fait qu'on ait été beaucoup chez nous, un peu plus sur nos ordinateurs, puisque c'était un peu le seul moyen et de communication et aussi de faire ses courses aussi pour certaines personnes qui vivent dans des recoins un peu reculés où malheureusement, ils n'ont pas accès à pouvoir acheter, faire leur petit shopping comme ils le voudraient. Oui. Du coup, je me demandais, est-ce que les fraudeurs, de manière générale, ils sont pas encore devenus plus experts en la matière depuis la pandémie?
Ah oui, absolument. La pandémie a vraiment aggravé les choses en général, parce que d'un coup, des personnes étaient isolées, donc avaient besoin et envie de contact, même s'ils ne pouvaient pas avoir de contact physique. Donc, quelqu'un qui se présentait ou qui les contactait et qui était aimable et qui était charmante, etc. C'était quelque chose vraiment qui manquait pour beaucoup d'entre nous. Donc, ça encourageait les choses. On avait, bien entendu, les opportunistes qui avaient des arnaques spéciales durant Covid avec, soi-disant, des remèdes magiques et des choses comme ça, vraiment spécialisées pour autour de la peur et de la désinformation autour de la pandémie. Et puis, bien entendu, oui, l'augmentation des interactions et des choses qu'on fait en ligne. Donc, y compris, et j'en reparle à nouveau parce que c'est quand même une grande proportion des arnaques ces temps-ci, toutes les arnaques romantiques où quelqu'un se sentait isolé et s'est dit, bon, après tout, je vais me mettre soit sur un site de rencontre, soit une appli de rencontre, soit une personne m'a envoyé un message par Facebook, elle a l'air très gentille et on commence à discuter et puis les choses avancent et puis finalement 6 mois plus tard elle me demande de l'argent. Et donc ça, il y a eu aussi une grande augmentation de ce côté-là, simplement parce qu'on était tous, la plupart d'entre nous étaient isolés, on avait peur, on savait pas trop ce qui se passait, surtout la première année années étaient quand même très dures pour de nombreuses ouais. personnes et surtout les personnes âgées. Pour beaucoup d'entre elles, se sont retrouvées sans tous les soutiens et supports quotidiens, activités et autres dont elles bénéficiaient avant et étaient coincées chez elles pour protéger leur santé, mais malheureusement au
détriment de
au détriment
sécurité.
Exactement de leur sécurité et puis de leur santé mentale aussi, de leur bien-être mental, parce que l'isolement comme ça, ça peut être terrible.
Et Bénédicte, avant de se quitter, si tu avais justement un top 5 des meilleurs conseils, des meilleures bonnes pratiques, astuces, t'appelles ça comme tu veux, mais à garder en tête quand on fait des achats ou qu'on consulte ses emails ou qu'on partage du contenu sur les divers réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il faut qu'on garde en tête pour être sûr qu'on se fasse pas arnaquer plus tard, qu'on tombe pas dans une arnaque ou qu'on soit pas déjà victime d'une arnaque, surtout quand on est une personne âgée?
Oui, la première chose, c'est avoir une dose saine de méfiance et toujours se demander est-ce que c'est logique. Prendre juste ces 5 secondes de réflexion quand vous rencontrez une situation avant de vous lancer complètement. 5 secondes, un grand souffle, une grande respiration, juste histoire que le cerveau commence à faire son travail normalement. Parce que très souvent, c'est tout ce qu'il faut pour réaliser qu'il y a un truc qui ne colle pas. Il y avait récemment quelque chose dans les informations comme ça d'un couple qui a failli tomber dans une arnaque. Il a juste fallu le temps de descendre, de prendre l'ascenseur pour descendre. Et entre 2 étages, juste ce petit battement leur a servi pour que l'un des deux se dise non, mais c'est pas logique. Donc, méfiance, prendre 5 secondes pour réfléchir et respirer. Discutez-en, ne prenez pas la décision immédiatement et puis discutez-en avec quelqu'un autour de vous. Des fois, d'en parler, de le dire à haute voix et d'en parler à quelqu'un, la personne en face de vous va pouvoir vous dire « mais non, c'est pas logique ». Ou alors même vous allez vous en rendre compte quand vous essayez d'expliquer ça vous-même. Et si quelque chose s'est passé, si vous avez été victime d'une arnaque et que vous avez perdu de l'argent, ne soyez pas honteux, ne soyez pas embarrassé. C'est horrible, c'est absolument horrible quand ça vous arrive, mais ça n'est pas votre faute. La seule personne qui est responsable dans l'affaire, c'est la personne qui a décidé de commettre un crime et de vous prendre votre argent. Vous, c'était pas votre faute. Ils vous ont eu un moment de faiblesse ou un moment où vous étiez occupé, vous n'avez pas vraiment réfléchi. C'est pas votre faute. Et c'est important d'en parler. Parce que si vous n'en parlez pas, ça va vous faire du mal intérieurement, émotionnellement. Ça ne va pas vous aider à récupérer votre argent si c'est possible. Et vous vous trouvez à la merci peut-être d'une arnaque suivante. Donc, ne restez pas avec un secret pesant. Quel qu'il soit, parlez-en. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous écouter, soit des amis proches, soit des services qui sont dédiés à ça. Donc, ça ne vous engage à rien. Vous pouvez appeler quelqu'un et vider votre sac. Vous ne serez pas obligé de faire quoi que ce soit d'autre, mais ça vaut la peine de le faire. C'est nécessaire pour votre propre bien-être. Et réfléchissez aussi, dites-vous que vous pouvez aider d'autres personnes en faisant ça. Si vous signalez ça au Centre antifraude du Canada, si vous en parlez autour de vous, vous pouvez éviter que d'autres personnes se sentent de la même façon que vous vous sentez. Et je pense que ça peut être une bonne motivation aussi.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Bénédicte, pour tous ces bons conseils. J'espère que les auditeurs de Choc FM 105.1 auront bien pris note de tous ces bons conseils, ces bonnes pratiques pour lutter justement contre toutes ces arnaques différentes, diverses qu'on peut croiser sur Internet. Merci d'avoir pris le temps de revenir sur ces points très importants. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie. Merci beaucoup, Bénédicte.
Ça m'a fait plaisir, merci.
Nos aînés connectés, questions-réponses.
Et on est de retour aujourd'hui avec Julia. Avec Julia, donc, pour poser une série de questions-réponses sur les fausses cartes cadeaux. Comment ça va, Julia, aujourd'hui?
Ça va très bien, Nathalie, et toi?
Eh bien, écoute, ça va super parce qu'on va pouvoir expliquer aux auditeurs de chaque FM 105.1 les bonnes pratiques pour éviter de se faire arnaquer avec de fausses cartes cadeaux. Alors, la première question, Julia, elle est simple, c'est quelles sont les précautions de base à prendre pour éviter une fraude avec des cartes cadeaux?
Les précautions de base consistent à rester bien vigilant lorsque quelqu'un vous demande d'acheter les cartes cadeaux en son nom. Surtout lorsqu'il s'agit de la saison des fêtes, les cartes cadeaux sont bien souvent prisées. Mais plusieurs clients alertent d'avoir reçu des cartes frauduleuses et plusieurs en réalité sont fausses et servent plutôt à faire des cadeaux aux fraudeurs. Et selon un article de nos confrères de Radio-Canada datant d'octobre 2019, le Centre antifraude du Canada se dit au courant que de telles pratiques de fraude organisée existe, mais dit ne pas de comptabiliser.
Alors, du coup, Julia, quels sont les signes qu'on peut surveiller pour détecter une fausse carte cadeau et s'assurer qu'on n'est pas en train de se faire arnaquer?
En En effet, il est maintenant devenu de plus en plus facile pour les fraudeurs de fabriquer eux-mêmes de fausses cartes de cadeaux. Pour ce faire, ces derniers achètent des machines à cloner des cartes. Ces dernières peuvent se trouver facilement sur l'Internet et ce, à moindre frais. Il ne leur faut plus qu'une pile de cartes vides et les fraudeurs peuvent ensuite mener à bien leur stratagème. Selon certaines informations, les fraudeurs collent donc un code-barre d'une autre carte de cadeau sur une carte prêt à acheter qu'ils remettent ensuite en place dans le rayon du magasin. Et alors que vous pensez charger votre carte en toute sécurité après l'avoir achetée chez votre détaillant, vous chargez en vérité leur carte.
Mais alors Julia, ça fait peur tout ça. Comment on peut se protéger donc contre ces fausses cartes cadeaux? Est-ce qu'il y a des choses qu'on puisse faire?
Alors, premièrement, toujours selon nos confrères de Radio-Canada, le ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs de l'Ontario affirme que les consommateurs peuvent faire certaines choses pour se protéger. Alors, premièrement, achetez uniquement des cartes gardées derrière un comptoir. Ne pas acheter une carte qui semble indiquer qu'il a eu atteinte son intégrité ou une tentative de falsification. Mais selon certains experts en cybersécurité, il y aura en fait très peu de choses que les consommateurs peuvent faire lorsqu'il s'agit d'escroquerie par carte de cadeau. Deuxièmement, il est recommandé aux gens d'acheter des cartes de cadeaux en ligne directement chez les détaillants ou de ne pas en acheter du tout. Et puis, troisièmement, vérifiez bien que tous les numéros correspondent et surtout vérifiez votre ticket de caisse. Si vous avez payé avec votre carte de crédit, n'hésitez pas à contacter votre banque. Il peut y avoir des moyens de récupérer votre argent. Puis, quatrièmement, si on vous demande d'acheter une carte de cadeau pour le compte de quelqu'un et ensuite gratter le dos de la carte afin de révéler le numéro d'identité, identification personnelle, méfiez-vous. Surtout si cette personne vous demande ensuite de prendre une photo des numéros d'identification puis lui envoyer la photo par email. Et finalement, évitez également d'acheter des cartes cadeaux d'occasion ou sur des sites d'enchères en ligne.
Mais alors Julia, explique-nous un petit peu comment on peut reconnaître les caractéristiques de ce genre d'escroquerie de fausses cartes cadeaux.
En général, ces courriels sont bien souvent très mal rédigés et contiennent beaucoup de fautes d'orthographe et de grammaire. On vous demandera aussi bien souvent de fournir le code dissimulé au dos de la carte pour se faire prendre une photo de l'endos de la fameuse carte de cadeau et d'envoyer ensuite la photo par courriel. Puis, vérifiez donc bien l'adresse email de l'expéditeur et si cette personne fait partie de vos proches, n'hésitez pas à entrer directement en communication avec elle par téléphone.
Il se peut
en effet que cette personne qui se trouve être votre amie se soit fait pirater son compte email et que par la même occasion de petits malins essayent de se faire passer pour elle par email. Donc si vous recevez un courriel vous demandant d'acheter une carte de cadeau, le plus sûr est de ne pas y répondre et de le supprimer. Mais des fois il arrive que la fraude concernant les fausses cartes de cadeau prévienne directement d'employés mal intentionnés. En effet, il arrive que des caissiers activent votre carte de cadeau et vous remettent une carte non activée. Ils utilisent ensuite la carte de cadeau activée pour leur profit ou la vendent pour de l'argent. Une autre version de cette arnaque consiste à vous faire payer quelque chose avec une carte cadeau partiellement utilisée. Après vous avoir remis votre carte de cadeau, le caissier l'échange subtilement contre une carte entièrement utilisée et prétendre ensuite qu'il n'y a plus de solde sur votre carte.
Mais alors du coup Julia, est-ce qu'il y a des moyens? Comment on peut signaler une fraude concernant ces fameuses cartes cadeaux alors?
Le bon réflexe est de toujours signaler l'incident au poste de police de votre région ou à la Gendarmerie royale du Canada ou au Centre antifraude du Canada. N'hésitez pas également de communiquer les détails de l'escroquerie à vos amis et vos proches, surtout à la personne qui vous a envoyé cet email. En effet, votre ami s'est probablement fait pirater son compte de messagerie électronique, alors autant être sûr de pouvoir aussi protéger vos proches de ce genre d'escroquerie. Si vous avez été victime d'une fraude à la carte de cadeau, contactez immédiatement l'entreprise émettrice de la carte de cadeau. Elle peut ajouter l'arnaqueur à un registre de fraudeurs connus et peut être en mesure de vous indemniser. Gardez la carte et le récit à portée de main si vous l'avez encore. Si la carte cadeau provient d'une grande entreprise ou une plateforme en ligne telle que Google, Amazon ou encore eBay ou Apple, essayez d'entrer en contact plus rapidement possible avec le service client de ces entreprises. Certaines d'entre elles ont même des services dédiés aux escroqueries.
Mais alors Julia, dis-moi en fait pourquoi c'est toujours les personnes âgées qui sont souvent ciblés par les fraudeurs de cartes cadeaux.
Les personnes âgées sont souvent ciblées par les fraudeurs en tout genre en raison de leur vulnérabilité potentielle, de leur manque de connaissances en matière de sécurité en ligne et de leur tendance à être plus généreuse et à faire plus facilement confiance.
Mais alors, avant de se quitter, Julia, comment on peut aider les personnes âgées à se protéger justement contre la fraude de ces cartes cadeaux ?
Pour aider les personnes âgées à se protéger contre la fraude des fausses cartes de cadeaux, il est recommandé de les éduquer sur les bonnes pratiques de sécurité en matière de cartes de cadeaux, de leur expliquer les signes à surveiller pour détecter une fraude à cartes de cadeaux et de les aider à surveiller régulièrement leur relevé de cartes de crédit et à signaler rapidement tous les problèmes ou transactions suspectes. Il est également recommandé de les aider à reconnaître un email frauduleux qui les incitera à, entre guillemets, aider un proche. Alors qu'il s'agit en réalité d'un email frauduleux essayant de les pousser à l'achat. Il faut aussi savoir faire preuve de méfiance envers les demandes non sollicitées. Rares sont les personnes qui vont vouloir vous demander un service par email, alors qu'ils pourraient très bien vous parler de vive voix par téléphone.
Eh bien, merci beaucoup Julia pour tous ces bons conseils et ces bonnes pratiques, surtout pour éviter les fraudes à la carte cadeau. J'espère donc que tous les auditeurs de chaque FM 105.1 auront pris note de tous ces bons conseils. Et je le rappelle encore une fois, n'hésitez pas à parler à la police ou surtout au Centre antifraude du Canada si jamais vous avez été victime ou si vous avez encore en votre possession une carte cadeau frauduleuse. Merci Julia, à très bientôt.
Ouais, à bientôt.
Et voilà, vous avez donc pu découvrir notre nouvel épisode de Nos aînés connectés qui, je vous le rappelle, avait pour thème aujourd'hui les arnaques concernant les cartes cadeaux. Alors encore une fois, restez bien toujours aux aguets lorsque vous recevez des emails vous demandant de l'aide. Et surtout, n'hésitez pas à entrer en contact avec cette personne. Car peut-être qu'elle fait actuellement face à de réels gros soucis financiers et qu'elle a besoin réellement de votre aide pour de vrai. Ou alors, c'est donc une grosse arnaque dans laquelle vous risquez de tomber si vous ne faites rien. Et puis, n'oubliez pas que si cette personne est proche de vous, que ce soit un membre de votre famille, un ami, une connaissance plus ou moins proche par le travail ou par vos hobbies sur le côté, n'hésitez pas à entrer en contact directement avec cette personne par téléphone, pour être sûr de discuter de vive voix avec elle. Peut-être qu'elle vous dira « Effectivement, je suis actuellement dans une situation compliquée » ou alors elle va vous dire « Waouh, tu es la 10e personne à m'appeler. Effectivement, j'ai dû peut-être me faire pirater ma boîte courriel. » Donc n'hésitez pas surtout à appeler vos proches, ça vous permettra de prendre de leurs nouvelles et surtout de vous assurer qu'ils ne sont pas actuellement dans une situation compliquée et également de votre côté à vous protéger contre une éventuelle fraude. Et puis j'en profite également pour vous rappeler de ne jamais, au grand jamais, cliquer sur des liens qui vous ont été envoyés par des destinataires inconnus. Je souligne également de ne pas céder face aux pressions, surtout en ce qui concerne d'éventuelles situations urgentes imaginaires, que ce soit par email, par texto ou encore via vos réseaux sociaux, par exemple. Et puis surtout, très 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 important à souligner, à mettre en gras, en rouge, bref, gardez bien ça en tête, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Car des fois, c'est en disant ce qui vous arrive à haute voix à quelqu'un de confiance que l'on réalise que l'on fait face à une arnaque. Alors chers auditeurs de chaque FM 105.1, si cette émission a pu vous aider à ouvrir les yeux sur ces techniques de fraudeurs 2.0, eh bien sachez que je suis ravie, et surtout si jamais vous ou quelqu'un de votre entourage a été victime d'une arnaque en tout genre sur Internet, n'hésitez pas à venir partager votre histoire avec nous. Nous serons ravis de pouvoir mettre en lumière votre histoire et surtout de prendre de vos nouvelles et nous assurer que tout va bien pour vous dorénavant. Alors merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Nos aînés connectés. Je vous rappelle que ce projet est financé en grande partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Tous nos épisodes sont d'ailleurs diffusés tous les mardis à partir de 18h. Mais sachez que vous pouvez également retrouver tous les épisodes de notre série Nos aînés connectés sur notre site chaquefm.ca ainsi que sur toutes les grandes plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Amazon Podcast, Deezer, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast ou encore Hot Radio. Bref, n'importe quelle plateforme de streaming que vous utilisez, vous allez pouvoir nous retrouver dessus. Alors encore un grand merci à toutes et à tous. C'était Nathalie Salmeron. Une bonne fin de journée à vous et à très très bientôt pour un nouvel épisode de Nos aînés connectés sur les ondes de chaque FM 105.1, votre radio francophone ici à Toronto.
Merci d'avoir suivi le nouvel épisode de Nos aînés connectés, un projet rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web chocfm.ca pour retrouver tous les autres épisodes de la série.